Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue donc à cette discussion qui s'intitule « La santé par les arts ». Mon nom est Émilie Perrault, je suis journaliste culturelle et entre autres autrice de cet essai qui s'appelle « Service essentiel, comment prendre soin de sa santé culturelle ». Je suis très bien accompagnée aujourd'hui pour cette discussion et justement, c'est une discussion, donc je vous invite vraiment à tout moment, si vous avez envie d'échanger entre vous, j'ai envie que ce soit convivial. Donc, je vous présente tout de suite mes invités, Sophie Fauché, qui est comédienne, chroniqueuse et autrice. Entre autres de ce recueil de chroniques, donc « La vie m'amuse ». Également, Émilie Monet, qui est artiste interdisciplinaire et qui est ici pour nous parler donc de cette pièce de théâtre « Okinum ». Je prononce bien.
Oui.
Merci beaucoup d'être là. Et Robert Lalonde, également comédien et auteur, pour parler entre autres de « Pas un jour sans train », qui est la plus récente parution, mais on peut aborder les autres aussi, là. On reste pas dans l'actualité récente. Donc, avant de plonger au cœur du sujet puis parler vraiment de santé, j'ai quand même envie qu'on passe un peu de temps sur vos œuvres respectives pour que les gens puissent les découvrir. Donc, Émilie, peut-être que je commencerai avec toi. Okinum, qu'est-ce que ça veut dire, Okinum?
Donc, Okinum, c'est un mot en Anishinaabemowin, qui est la langue, en fait, maternelle de mon grand-père, des Algonquins, des Anishinaabe, et qui veut dire barrage. Donc, en fait, c'est toute une réflexion intime sur la notion de barrage, les barrages intérieurs, puis comment est-ce qu'on fait pour retirer, en fait, ce qui obstrue la parole, en fait, en gros.
Tu fais un geste ici. Il faut dire que ça part quand même vraiment d'une question d'une maladie, donc d'un cancer de la gorge. C'est ce dont on parle, de ce barrage-là.
J'ai eu un diagnostic de cancer dans la gorge, donc c'est devenu la question du barrage est devenue un peu une métaphore pour parler un peu de comment la colonisation et toutes les stratégies d'éradiquer, en fait, notre culture, notre langue a affecté, en fait, les femmes dans la lignée de ma famille. Donc, j'ai lié ça, puis avec... en fait, ça part aussi d'un rêve récurrent que j'ai eu d'un castor que j'essaie de déchiffrer. Donc, je tresse un peu toutes ces histoires narratives dans la pièce.
Puis, il est question aussi, justement, dans cette pièce-là, de santé de façon holistique. C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de moments qui se passent à l'hôpital. Là. Je veux dire, il y a des diagnostics, mais il n'y a pas qu'une seule façon de se guérir.
Oui, ben moi, j'ai fait un choix personnel de me guérir à travers la médecine traditionnelle, la médecine autochtone. Je partage un peu ce processus-là. Puis oui, la guérison est beaucoup plus holistique, à la fois, bon, c'est physique, bien sûr, mais au niveau spirituel et au niveau émotionnel. Donc, ce cheminement de guérison m'a emmené aussi à peut-être guérir des choses au niveau de ma famille aussi et de mes ancêtres. Donc, et dans mon cas, ça a marché, le cancer est parti. Donc, je sais pas, un plaidoyer pour les médecines traditionnelles.
Non, pas
je suis pas
tout.
Contre la chimio, la radiothérapie, mais dans mon cas, ça a vraiment été une occasion de libérer ma parole, peut-être aussi. Donc voilà.
Et le fait de monter sur scène pour raconter tout ça, ça fait aussi partie du processus de guérison?
Oui, aussi. Puis j'ai enregistré beaucoup mes leçons, en fait, d'Anishinaabemowin avec ma professeure. Donc, c'est une façon aussi de montrer mon cheminement d'apprentissage et puis de montrer aussi comment, finalement, l'identité est vraiment liée à la langue qu'on parle aussi.
Et c'est toujours ça, du théâtre à l'écrit. Je lisais ça, puis là, je voyais les notes, les didascalies et tout ça, mais je me disais, sur scène, il devait y avoir quand même une dimension de plus. Déjà, c'est puissant dans l'écriture. Est-ce que, quand vient le temps de juste rendre le texte, est-ce que ça fait mal un peu de dire, est-ce que c'est suffisant de publier
non, pas
seulement
du tout.
Les mots?
Ben, quand je l'écris, en fait, le texte est venu en même temps que le son. Je l'ai d'abord imaginé sonorement, je pense, ce spectacle. Et puis après, ben, ça a été un travail super chouette avec mon éditeur Sylvain Lavoie aux Herbes Rouges, qui lui a vraiment fait tout un travail pour en faire un objet
littéraire.
Voilà.
Mais merci beaucoup, Émilie, d'être là. Je me tourne vers Sophie. Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Pour parler donc de La vie, ma muse, qui est un recueil de chroniques qui ont d'abord existé à la radio.
Pas toutes, en fait. C'est Pierre Brassard anime une émission qui s'appelle Parasol et Gobelet, à laquelle je participe depuis presque 6 ans. Et pendant cette pandémie, j'ai fait du ménage et je me suis rendu compte que j'avais raconté beaucoup de bêtises et puis d'autres choses plutôt bien. Mais j'avais pas seulement ces chroniques, j'avais aussi un texte hommage à notre amie Kim Yaroshevskaya, j'avais un texte sur le bonheur, j'avais écrit un texte plus récent sur le départ de ma fille. Donc j'ai pris ce que je trouvais le mieux et j'ai pris aussi le temps de retravailler ces chroniques pour qu'elles soient présentables à l'écrit, parce qu'à la radio, on s'adresse aux camarades, on dit des bêtises, il faut pas que ce soit, fallait que ce soit intemporel d'une certaine façon. Et j'ai demandé tout de suite à Pierre Brassard, puisque c'est l'animateur et que j'admire depuis fort longtemps sa façon de dessiner, j'adore ses dessins à Pierre, j'ai dit, est-ce que tu ferais des illustrations pour mes petites histoires? Et il a tout de suite dit oui. Et ce qui m'a fait rire, c'est que, en fait, il s'est rendu compte de tout ce que j'avais raconté dans son émission. Puis il m'a dit, mais c'est bon ce que tu as dit, mais quand tu animes ton émission, il n'a pas forcément pris le temps de m'écouter à ce point. Alors, on a beaucoup ri.
Il a découvert les chroniques.
Ça a été une collaboration formidable parce que lui sortait une image, ce qui semblait être pour lui le tournant ou la chose importante. Chose importante à laquelle peut-être j'aurais pas donné la même signification. Enfin bon, mais donc c'est vraiment comme deux personnalités. C'est un grand ami et ça a été un bonheur de faire ce livre, La vie m'amuse. J'ai déjà le titre du prochain. Ce sera La vie muse. Voilà.
J'aime.
M'apostrophe.
Ouais. J'irai peut-être juste dans quelques exemples des textes qui m'ont marqué, entre autres Au creux de l'oreille. Est-ce que c'est possible de parler de cette expérience?
Au creux de l'oreille, c'est assez amusant parce que pendant la pandémie, Wajdi Mohawad, qui a créé ça à Paris, tout de suite, on s'est. D'abord, les comédiens, on peut se le dire, ça a été épouvantable, mais on était totalement inutiles et tout ça. Non, mais c'était catastrophique. Moi, j'avais une première avec Robert Lepage à 2 jours d'avis dans Queers. J'avais travaillé comme une malade pour faire la femme du Marquis de Sade. Et puis, merci, bonsoir, tu retournes chez toi. Bon, bref. Donc, il met au creux de l'oreille, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une émission, pas d'une émission. On donnait nos disponibilités. Alors, moi, j'avais donné toute la semaine, de 2 à 4. On disait aux gens, vous aimez la littérature, inscrivez-vous. Et il y avait toute une banque de comédiens qui participaient à ça. J'avais fait mes devoirs, j'avais sorti des textes québécois du Robert Lalonde qui se lit merveilleusement au creux de l'oreille. Je ne te connaissais pas encore, mais donc j'avais des tas d'un florilège, ça des poèmes, des essais, des extraits de livres qui me touchent, du Colette, du Saint-Denis Garneau, bref, une bonne ratatouille de textes. J'appelais les gens, alors Madame Rita Le Tendre, par exemple, bonjour Madame, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Ah oui, qu'est-ce que vous aimez? Et selon l'échange qu'on avait, pendant 20 minutes, je lui lisais des textes qui... Et c'était fantastique comme en 20 minutes on peut créer un lien. Parce que la dame disait, Madame Fauché, vous me faites penser, avez-vous lu telle chose? Non. Alors je prenais en note et il y a vraiment eu... Ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux et j'ai eu la cote puisque... Il y a une dame qui a dit, vous êtes extraordinaire, je peux-tu demander de vous avoir? Et ça, on n'avait pas le droit de faire, je peux-tu demander de vous avoir? Mais elle a eu l'autorisation, puis j'ai eu tout un groupe de 12 madames qui sont... Enfin bon. Et un jour, il ne faut pas le dire, mais l'organisatrice de Au creux de l'oreille me dit, je vais t'offrir un cadeau à Jacques. Moi, je sais juste que c'est Jacques. Alors, je suis contente et je suis prête, puis on s'entend que c'est du bénévolat qu'on fait. Alors... À 4 heures, ce téléphone sonne. Bonjour monsieur, Sophie Fauché. Il sait pas pantoute qui je suis, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais là, il fait, bon, ça fait 5 minutes que je poirote, j'ai pas que ça à faire. Alors, il paraît que vous allez me lire des choses, des textes. Je fais, oui, vous lisez quoi en ce moment? Oh, je ne lis pas, je m'occupe de mes petits-enfants, c'est bien assez. Vous savez, j'ai beaucoup donné dans la... Alors, il a été professeur, très bien. Mais j'ai dit, j'aurais un texte, peut-être, de Bernard Dibé, que j'aime beaucoup, qui me semble... Allez-y. Et là, je commence, il m'interrompt. Je ne comprends rien. Vous allez beaucoup trop vite. Très bien, monsieur, je recommence. J'ai des acouphènes. Enfin, c'était incroyable. Je me disais, mais je reste poli, mais là, il ne faut pas exagérer, là. Alors, il avait été professeur de théâtre, il connaissait tout. Là, je finis pas. J'ai le cœur aussi grand qu'une place publique ouverte à tous les vents, voire à n'importe qui. Plus fort, je n'entends rien. Et je vous dis ça, j'ai pas pris de Prozac, mais c'était comme bon. Et finalement, il me dit, bon, c'est pas plus mal, vous lisez pas mal, madame, mais là, il faut que j'y aille, etc. Donc, ça m'a tellement soufflé, ça m'a tellement... que j'en ai fait une chronique au creux de l'oreille où je citais Benoît Girard qui disait « Notre métier, ce n'est pas un métier d'humilité, c'est un métier d'humiliation. » Bon, bref. Alors, c'est tout, mais ça a été la seule fois, en fait. Mais je pensais pas au creux de l'oreille me faire enguirlander parce qu'il n'y avait pas que ça à faire. En plus, c'était un cadeau.
Mais j'imagine qu'il y a eu quand même plein d'autres expériences hyper
mais à côté de
vous
ça,
avez
oui.
senti que ça faisait une différence.
Non, mais oui, les gens, la solitude des gens qui se confient, qui disent vous êtes mon rayon de soleil de la journée, je n'ai parlé à personne dans les CHSLD, c'était effrayant. Donc on avait l'impression, pour reprendre le titre d'une émission que mademoiselle a menée avec... On faisait œuvre utile, et c'est important.
Merci beaucoup, Sophie. Je me tourne vers Robert. Bonjour, Robert.
Allô, je ne sais pas si mon micro marche, oui.
Bientôt, j'imagine.
Oui.
Est-ce qu'on entend bien M. Lalonde?
Oui, c'est correct.
Ou un peu plus fort?
M'entendez?
Oui. Donc, j'ai entre les mains « Pas un jour sans train », qui est le plus récent, donc qui parle entre autres de l'amour du voyage en train, mais surtout qui est un exercice d'admiration. Qu'est-ce qui a été à la base de celui-là?
Oui, j'appelle ça un exercice d'admiration sur rail. dans la mesure où on peut pas voyager, on peut toujours pas bien. Et j'avais envie... d'évoquer les voyages d'abord et puis comment peut-être d'autres comme moi ont, disons, opéré une espèce d'autothérapie dans leur propre écriture en se déplaçant sur rail plutôt qu'en restant dans leur bureau.
Ouais.
Moi, ça m'est arrivé, je prenais des trains, même si j'avais à faire nulle part, pour écrire.
Ah.
La vitesse du train... l'espèce d'immobilité en mouvement qui est en fait quasiment une définition de l'écriture, je dirais, me libérait du caractère un peu scolaire dans lequel on peut tomber quand on écrit, quand on décide d'être acharné à la tâche.
Ouais.
Et j'ai imaginé donc d'autres écrivains que je connais bien, qui sont des amis depuis toujours, vivaient la même chose que moi. Donc je les mets en même temps que moi en train de traverser un moment... une espèce de quadrature du cercle dans leur œuvre qu'ils essayent de solutionner et que le train favorise, une perspective inattendue à un problème qui semblait ne pas se résoudre. Je me suis beaucoup amusé à faire ça et puis c'est important pour moi de parce qu'on parle de santé, entre guillemets, par rapport au travail de l'écriture, parce qu'on se pose toujours la question, on me fait toujours demander ça, est-ce que c'est thérapeutique, l'écriture? Est-ce que ça vous guérit de quelque chose? Est-ce que... J'ai jamais pensé en ces termes-là. Je crois pas que d'écrire mène forcément à la guérison ou à une autothérapie, je crois pas. Mais le simple fait d'être dans l'acceptation de ses propres contradictions, de s'adresser à un lecteur aussi, de s'adresser à quelqu'un quand on dit quelque chose. Ce que les gens, depuis le temps que j'écris, ça je le constatais souvent, comme ici au salon, quand ils viennent me parler, ils me parlent très peu de mes livres, ils me parlent d'eux. Ils sont allés à un endroit avec mon livre où je ne les attendais pas et où eux-mêmes ne s'attendaient pas des fois. Et c'est plus important, cette façon de revisiter sa propre vie par l'écriture, pour en arriver à des notions, non pas de guérison, mais d'une plus grande, une conflagration qu'on mène à la solitude aussi et à l'enfermement. Et puisqu'il était en plus question d'enfermement physiquement pendant la période où j'ai écrit ça, tout ça pour moi concordait. Et souvent, c'est ça. Donc, j'ai un échange avec les lecteurs qui m'amène... Il y a un moment que je raconte, je pense, c'est ce livre-là, où il y a un monsieur en train qui est venu me raconter qu'il ne s'entendait pas avec son père était mourant, il s'est ramassé dans la chambre d'hôpital, il disait peut-être qu'on va peut-être avoir une réconciliation, il faut tout de même que j'y aille. Ils n'avaient rien à se dire. Le temps était pesant. Cet homme lui avait fait beaucoup de tort aussi à cet enfant-là. Puis il dit, il y avait un de vos bouquins qui était dans ma poche. Son père, il disait, qu'est-ce que tu lis? Il dit, j'ai sorti ça. Puis il m'a dit, mais puisqu'on n'a rien à dire, fais-moi donc la lecture. Et il a tout lu, le bouquin, à son père, dans la chambre d'hôpital. Et le père s'est éteint à la quasiment dernière ligne du livre.
Avec un de tes livres?
Avec un de mes livres.
Tu l'as tué? Tu l'as achevé?
J'estime l'avoir soulagé, probablement. Plutôt que tué, parce que la vie avait déjà fait son œuvre. Mais en fait, c'est que, là, tu te dis, mais comment j'aboutis dans une chambre d'hôpital entre une possible réconciliation entre un père et un fils avec un bouquin?
C'est incroyable.
On ne pense pas à ça quand on écrit, mais ça arrive, ce genre de... Et comme ça m'est arrivé aussi, moi, d'être sauvé par un livre, guéri, je dirais pas, mais sauvé momentanément, hein, parce qu'on est dans la vie, on est continuellement pris dans des pièges, et en sortir seul, c'est difficile, mais les livres aident beaucoup à ça. C'est peut-être l'essentiel même de ce que c'est que la lecture, c'est à un moment donné être en face de l'impossibilité d'éviter quelque chose et puis d'y aller. Et puis je travaille beaucoup, moi, en transmission avec des jeunes écrivains et tout ça. Puis à partir du moment où ils commencent à être inconfortables ou mal à l'aise, moi, je respire. Ils y vont. Ils sont rendus dedans. Il s'agit d'être à la fois attentif et impitoyable avec soi-même quand on fait ça. Et puis c'est tout. Après, qui s'en emparera et ce que ça deviendra? S'il y a quelque chose de magique, absolument, dans ça.
Vous êtes un invité formidable, parce que j'allais justement vous diriger vers cette
histoire.
Oui, complètement, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Donc, on pose souvent la question, est-ce que l'écriture est thérapeutique, mais est-ce que la lecture est thérapeutique, en fait? C'est surtout ça. Moi, je pense que du point de vue du lecteur, il y a quelque chose. Quand on tombe dans un livre, c'est une fuite, c'est une évasion. Dans l'essai « Service essentiel », je suis allée fouiller quelques études scientifiques. On dit, par exemple, que le fait de lire 30 minutes par jour, ça augmenterait l'espérance de vie de 2 ans. Et par le fait que c'est un exercice cognitif hyper important, mais surtout, c'est un moment qui nous permet de...
Je suis éternelle dans ce
que c'est. Oui. Mais donc, est-ce que vous, dans vos vies, la lecture a cet effet-là? Est-ce que vous le sentez de façon thérapeutique?
Tu me regardais.
Oui.
Mais oui, la lecture fait du bien. Ou alors, quand elle n'en fait pas, on pose le livre et on ne veut pas se laisser encombrer non plus de... Je sais pas, il y a des choix à faire quand on lit. Il y a des choses qui peuvent aussi choquer, etc. Mm. Moi, j'ai besoin de beauté. J'ai besoin d'esprit. J'ai besoin d'élévation. J'ai besoin de réflexion profonde pour pouvoir après faire le clown. Mais vraiment, il y a un film que j'ai vu il y a des années, une semaine de vacances, avec Nathalie Baye et Michel Galabru. La jeune femme faisait elle était enseignante, elle faisait une dépression nerveuse, et son voisin, Michel Galabru, l'aimait bien, puis il voyait bien que ça n'allait pas, et il savait pas trop quoi lui dire, et il la coince à un moment donné dans l'entrée de l'immeuble, et il lui dit, je ne sais pas ce que vous avez, mais j'aimerais vous dire une seule chose, il faut tout faire pour rendre la vie légère. Et je ne sais pas, cette phrase m'est rentrée dans le cœur, mais vraiment dans le cœur. Et ce n'est pas d'être tout le temps futile, ce n'est pas ça. Mais je sais que ça m'a choquée, ça m'est rentré dedans. Et que même si je suis Sophie qui rit, Sophie qui pleure, etc., face aux autres, j'ai toujours ce souci de rester léger, tu vois. Il raconte quelque chose qui me touchait, puis je lui dis, tu l'as achevé. C'est épouvantable. Mais ça, c'est une déformation familiale, peut-être. Mais donc, c'est ça. Donc, tu parlais de la lecture. Oui, la lecture, il y a des choix à faire. Mais les livres pour enfants, c'est peut-être mon âge mental, mais il y a une effervescence dans ce domaine-là. Les bandes dessinées aussi, les livres graphiques.
Oui.
Alors, moi, j'aime bien l'équilibre aussi entre images et textes. Bon... Et puis, j'aime la poésie, Alors, c'est ça, mais oui,
mais,
oui,
mais
ça
tu fait... Tu vois, le simple fait d'employer l'adjectif thérapeutique présume qu'on est malade.
Oui, c'est ça.
Moi, je pense qu'à ce moment-là, on faut se reconnaître tous malades, parce qu'à un certain degré, peut-être qu'on l'est tous. Mais l'idée... par exemple, j'ai une amie qui est psychanalyste, puis récemment, je lui ai demandé comment ça se passe avec... le rapport avec le patient maintenant, elle a dit on ne peut plus faire ça. ça peut plus marcher, le patient puis le psychanalyste qui cheminent ensemble, parce que les gens arrivent dans mon bureau en disant ça va me coûter combien, ça va durer combien de temps, puis ça va me coûter combien.
Je veux un résultat.
Je veux un résultat, je ne suis pas ici pour rien, ça coûte cher.
Ouais.
Et là, la psychanalyste et la psychanalyse elle-même répond à ça. La psychanalyse n'est pas un mode de guérison, c'est un mode de cheminement pour arriver à se connaître. On va passer par toutes sortes de... On va passer par l'antiquité, on va passer par les mythes. Ça n'intéresse plus personne, ce genre de truc. C'est ça va. Donc, l'obsession de la guérison peut nous amener à essayer de mettre la main sur la pilule miracle. Mm-hmm. Alors que la véritable question, c'est comment on fait pour assumer toutes les embûches ou les pièges et tout qu'il y a sur le chemin qui est le nôtre, qu'on doit parcourir. Récemment, à l'émission de Penelope McQuaid, Penelope me dit « Comment êtes-vous arrivé à cette sagesse? » J'ai bondi littéralement sur ma chaise. Sagesse, le délinquant fini que je suis ne peut pas accepter cette définition-là. Et je lui disais, je me méfie un peu de cette sagesse dont on parle, parce que c'est presque l'extinction de la vie mon ami Jean-Didier Vincent, qui a écrit un livre formidable sur la chimie du cerveau, dit s'il n'y a pas contradiction, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de créativité. Donc,
oui, mais rassure-toi, Sophie veut dire sagesse, et il paraît que les sages et les fous ont pas mal de points en commun.
Pas mal.
Oui.
Et c'est bien ainsi.
Est-ce que tu allais vers la sérénité?
C'est
ma définition
préférée. Je sais pas
préférée.
C'est quoi. Moi, il y a des mots que j'ai beau étudier comme sérénité, comme sagesse ou comme bonheur, dont je comprends pas le sens.
Non. Mais émerveillement.
Oui, mais tu sais, quand je suis chez mon dentiste, que je coûte beaucoup trop cher à mon goût depuis les années et que j'ai rien à lire, j'attrape les magazines des fois qui traînent là. Tu sais, j'en ai déjà parlé de ça. Je suis sans voix. Tout ce qu'il faudrait censément que je fasse pour être heureux, je ne fais rien de tout ça. tous les dictats qui nous entourent continuellement sur le fait qu'on devient hyper responsable, sur le fait que si on n'est pas bien, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, alors que la vie n'est pas construite de façon à ce qu'on soit bien tout le temps. Non. Voyons donc, c'est ma mère à 94 ans, dit, voyons, le bonheur, toi, ça t'est dû. Toi, il faudrait que tu le sois tout le temps, tu le mérites. Voyons, on est heureux, on est malheureux, ça dépend... Je la trouvais très fataliste, mais en même temps, je tiens le même discours qu'elle maintenant à l'âge que j'ai.
Ouais.
Oui, c'est ça. Donc, quand je vois, l'autre jour, j'ai vu une photographie de ce que devrait être une chambre d'enfant, avec une caméra, puis un truc de son, et puis une espèce de petit hamac, parce que l'enfant ne va pas qu'il soit ni sur le ventre, ni sur le dos, ni sur le côté.
Oh non, c'est plus...
C'est terrible, parce que le parent ou le futur parent fait, je peux tuer mon enfant si je n'obéis pas.
Ouais.
Tu sais, ça devient une espèce
c'est angoissant.
Nécessité, puis... pour en référer à mon quart de sang autochtone, c'est une chose qui n'existe absolument pas dans la communauté autochtone Mohawk où j'étais quand j'étais jeune. Donc j'arrivais dans la communauté Mohawk, puis là je sortais, il me disait, mais Robert, tu vas te taire pendant au moins 4 jours, c'est pas possible, toutes les bêtises que tu dis, tu sais que t'as pris ça. Effectivement, ce silence me faisait un bien fou, je me mettais à absorber autre chose que moi-même. Puis quand je revenais à l'école, l'institutrice me disait, mais t'es morose, tu parles plus, tu vois-tu la contradiction? Mm-hmm. J'étais pas en train de me centrer, j'étais morose, j'étais névrosé pour l'institutrice.
Et toujours entre les deux identités,
c'est comme ma grand-mère, moi, quand elle me surprenait en train de lire et étudier mon cahier de botanique avec un arbre, avec des flèches, aubier, feuilles, tout ça, après ça, c'est le mur, elle me prenait, elle me mettait devant l'arbre, elle dit, tu passes la journée là, tu vas savoir ce que c'est. J'arrivais à l'école avec les doigts sales, l'institutrice trouvait que j'allais me laver les mains et que j'étais impoli. Donc, c'est ça. J'ai vécu toujours dans cette contradiction-là qui faisait qu'à un moment donné, il a fallu que j'accepte que cette réconciliation pour moi de ces deux façons de voir le monde n'aurait lieu que par l'écriture. C'est la seule façon que j'ai trouvée. C'est ça que j'essaie de transmettre aussi.
Pour notre plus grand plaisir.
Mm-hmm. Oui, mais c'est intéressant parce que moi, quand j'écris « Comment prendre soin de sa santé culturelle », je veux surtout pas avoir l'air moralisatrice.
Non, d'ailleurs...
C'est important de le dire, mais l'idée, c'est juste de dire... Souvent, je pense que les gens vont associer la lecture, le théâtre. S'il me reste un peu de temps, à la fin de la semaine, j'irai, tu sais, parce que ça, c'est du domaine du loisir. Alors que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ça nous fait du bien, alors planifions-le, ayons de saines habitudes de vie culturelle, mais c'est vraiment pas pour chicaner les gens, là, pas du tout, mais vous êtes tous des gens de théâtre, le cérémoniel du théâtre, tu sais, moi, je pense que ça amène aussi à un accès à la vie intérieure. Tu sais, quand on arrive au théâtre, la première chose qu'on nous dit, c'est fermer vos téléphones cellulaires. Moi, ça me fait un bien fou. C'est de me dire, arrête d'être comme ça, ouvre-toi, devant toi, il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça que j'imagine dans Okinum aussi, il y a un cérémoniel.
Ben, c'était aussi de penser à des codes plus autochtones aussi, mm-hmm. dans la rencontre avec l'art. Tu sais, même en Anishinaabemowin, il n'y a pas de mots pour dire art. Mm. Donc, c'est vraiment exprimer, en fait, l'esprit de la création et puis de rendre ça le plus beau possible, en fait, d'offrir une expérience qui va être transformatrice, j'imagine. Donc, dans ce sens-là, ça se rapproche un peu du rituel ou de la cérémonie. Donc, bon, pour moi, c'est ma première pièce. Donc, ça a un peu cette fonction-là parce que j'ai comme l'impression que j'ai découvert l'écriture, en fait, beaucoup avec ça. Puis maintenant, ça fait vraiment partie de ma pratique. Mais ça a été ma voix d'artiste un peu que j'ai accouchée. Donc, il y a définitivement ça, mais je pense que dans mes projets qui s'en viennent aussi, mes autres projets d'écriture, il y a toujours cette volonté de faire coexister ce qui est visible et invisible aussi dans une expérience commune.
Mm. Tu vois, je dirais même que le théâtre, la littérature, reste à peu près le seul endroit où on peut évoquer des problèmes sans solution.
Oui, sans
on
dire...
On n'est pas là. Tu sais, des fois, on a des discussions avec le public après la pièce, puis il y a des... une dame ou un monsieur qui va dire « Moi, j'ai pas compris, j'ai été largué un peu par ce spectacle-là. » Alors, j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous avez compris ?» Alors, il me raconte la pièce. J'ai dit « Mais c'est ça ?»« Oui, mais c'est dur. »« Oui, mais ça, c'est une autre affaire.
Ouais. »
C'est une autre affaire. Il y a plein de spécialistes, peut-être, pour vous dire quoi faire avec le problème. Vous verrez, mais on peut-tu vibrer autour de ce problème-là sans tout de suite penser à un mode de survie par rapport à ça ? Ce qui nous manque en ce moment, c'est d'être capable de vibrer entièrement à ce qui se passe sans avoir le devoir de régler la situation. La condition humaine ne se réglera pas parce qu'on en aura fait un congrès pour en parler, mais le théâtre, je pense, et la littérature reste un lieu où on peut évoquer, et d'ailleurs elle est forte, et il est fort le théâtre, quand on évoque quelque chose où le spectateur ou le lecteur va se dire « OK, la vie c'est complexe, je suis peut-être pas sûr qu'il faut qu'on arrive à une conclusion là-dessus. » Est-ce qu'on est obligé de conclure? Est-ce qu'on est obligé de guérir, mettons, de ça? Et le théâtre permet ça encore. Les règles sont simples. Le spectateur est là, nous, on est là. Et puis, si on joue trop l'émotion à leur place, ça marche pas. Donc, souvent, le metteur en scène va nous dire « pleure pas là, c'est pas à toi à pleurer, arrête-toi juste avant. » Alors, de ce rapport continuel avec le lecteur ou avec le spectateur, de dire on est en train d'évoquer quelque chose dont on n'a pas solutionné le problème.
Moi, hier soir, je jouais au théâtre Petit Champlain, qui est un théâtre de 230 places à Québec, qui est comme un écrin, et je parlais de la vie de Frida Kahlo avec mes mariachis. Et il y avait une jeune handicapée, on m'avait prévenu, elle a 16 ans, elle a gagné un concours, son rêve était d'aller au théâtre, et elle aimerait vous rencontrer après. J'ai dit, bien sûr que je vais la rencontrer, en espérant que ça ne me bouleverse pas trop, mais... elle était... Tu vois ça, je... Elle a dit, Madame Fauché, merci, pendant une heure et demie, j'ai complètement oublié que j'étais dans une chaise roulante. Puis elle dit, je viens pas d'un milieu où on va au théâtre, mais vraiment, je vais demander à mes proches. Parce que, et c'est vrai, il y a prescription. Le théâtre, il faut y aller et y retourner et puis voir du bon, puis du moins bon, et après ça devient une drogue. Mais je veux dire, il y a vraiment donc cette jeune femme qui m'a dit merci, puis je vais y retourner. Et dans la même journée, ça m'a fait rire parce que je m'en vais bientôt avec une amie voir des spectacles, et cette amie n'est pas du tout comédienne, et là je lui dis, bon là je nous ai pris des billets, c'est 2h30 sans entracte. Puis là, il y a eu un silence, elle dit, tu veux-tu me tuer, tabarnak? Et ça m'a fait hurler de rire, parce que moi, c'est la comédie française, c'est la comédienne Dominique Blanc. J'ai dit, écoute, tu t'endormiras dans la baignoire, mais j'ai dit, au moins, tu seras à la comédie française, puis j'assume total. Ouais. Donc, il y a de tout, et cette amie aussi, elle y va à reculons, mais ça vaut la peine, parce que quand ça se passe, quand les émotions sont partagées, il y a vraiment, tu parles du côté, il y a communion, il y a... cette très belle phrase de Jean-Louis Barrault, pourquoi il a fait ce métier-là, c'est qu'ils cherchaient le cœur humain, le cœur commun. Wow. Et c'est pour ça qu'on fait du théâtre.
Quand Alla Demidova, qui est une grande comédienne russe du théâtre Taganka, est venue à Québec, elle nous racontait qu'à un moment, les scientifiques soviétiques faisaient des expériences sur le magnétisme, etc., des acteurs, parce que les théâtres étaient pleins, puis les réunions politiques ne l'étaient pas. Comme on dit, ils voulaient essayer un peu de comprendre pourquoi. Et donc, ils les branchaient sur des machines pour étudier où est l'énergie. Où... Et leur constat, c'était que les acteurs ne donnent pas quelque chose au public. Ils leur enlèvent quelque chose.
Ah, c'est intéressant, ça.
Ils leur enlèvent un poids de solitude.
Une charge.
Ils leur enlèvent un poids de souci. En écoutant Macbeth, ils leur enlèvent un poids de culpabilité vis-à-vis de la guerre ou de la violence, etc. Très souvent, et les acteurs carburent avec ça, parce que les machines soviétiques indiquaient que l'aiguille était quasiment là quand il n'y avait pas personne. Devant le public, l'aiguille s'en allait à l'autre bout. De telle sorte que les acteurs carburent avec cette espèce de devoir artistique de persuader les gens qui sont devant soi, qui sont des êtres humains aussi incomplets et aussi difficiles que ceux qui sont devant eux.
Oui,
ouais. Et ça, la lecture fait la même chose aussi.
Oui, ouais.
Combien de gens me disent, après avoir lu mes livres ou d'autres livres, « Seigneur, je pensais... Vous... Jean, vous êtes aussi fou que moi.
» Ça fait du bien.
Ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien.
Mais il y a quelque chose... Quand on écrit pour le théâtre, c'est pour une parole qui va être dite, qui va être partagée de vive voix. Donc, les mots deviennent magiques. Il y a quelque chose, tu sais, ça me fait penser à la comédie française. Racine, par exemple. Les mots de Racine, il y a une incantation, il y a une musicalité de la langue et puis des mots qui tout de suite nous fait rentrer dans une autre...
Ouais.
Qui nous donne accès à une autre dimension aussi. Donc, je pense que c'est ça la spécificité d'écrire pour la scène.
On est coincé avec l'idée de comprendre aussi.
Oui, il faut sortir de ça.
En art, l'art n'est pas là pour qu'on comprenne quelque chose. C'est Proust, malheureusement, qui a raison dans le dernier tome de La Recherche. L'intelligence ne sert absolument à rien dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on est là pour vibrer autour de quelque chose, on est là pour évoquer des choses. Les seuls livres qui sont utiles pour comprendre, c'est des livres qui vont nous montrer comment monter notre kit qu'on a acheté chez IKEA ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire
des manuels d'instruction.
Un mode d'emploi, un manuel d'instruction. Mais la plupart des gens qui sont de vrais lecteurs ou de vrais spectateurs de théâtre ou qui y prennent goût, qui deviennent un peu drogués, comme tu disais tout à l'heure, du théâtre, ce n'est pas des gens qui ont l'impression de comprendre plus, c'est des gens qui ont l'impression qu'ils sont plus vivants, sont plus à l'intérieur des réels débats de la vie. Et qu'ils ont effectivement peut-être pas de solution à apporter, mais que ça fait tout de même du bien de partager ça.
Mais oui, moi, j'ai souvent l'impression, quand je vais au théâtre, qu'il y a des choses qui se règlent à mon insu, en fait. C'est ça. Et j'aime cette idée-là de dire qu'on se décharge, puis on se sent moins seul parce qu'on se reconnaît, puis il y a une espèce d'intimité. Pourtant, on est entouré d'étrangers.
Oui.
Mais il y a quelque chose de très intime parce que c'est dans le noir. Puis je trouve que quand je suis au théâtre, je ne suis que spectatrice. Je ne suis pas une mère, je ne suis pas une blonde, je ne suis pas une animatrice. On n'attend rien de moi. Ça fait du bien, cet état-là. T'sais, on a besoin de ça.
Je pense que tous les spectateurs sont un peu comme toi là, par rapport à ça. Ils font ce...
D'avoir
voilà,
ces moments-là.
Pendant deux heures, j'ai été une entité de moi-même qui n'est pas en mouvement tout le temps dans la vie courante.
Ouais.
Oui.
Et ça fait du bien. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler du point de vue, parce que je ne me considère pas comme une artiste, je me considère comme une spectatrice professionnelle, mais je sais que quand même dans le geste, il y a quelque chose qui peut être thérapeutique, même si on ne cherche pas à se guérir. Tu parles de chant choral dans La vie m'amuse. Ça, c'est quelque chose, toi, qui te fait du bien de monter sur scène?
Ah oui. Non, c'est parce que j'ai fait partie d'une chorale... je ne sais pas comment dire, mais c'est-à-dire, j'ai oublié le nom, là. Mais j'étais avec Suzanne Champagne dans une chorale avec que des femmes noires.
Gospel.
De gospel.
OK.
Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, mais je veux dire, j'ai jamais tant ri. Ces chants-là nous élèvent. Et j'étais avec mon ami et de fil en aiguille, avec ce petit cours, on s'est retrouvés à la TEU à donner un concert. Et on avait... Enfin bref, c'est des grands, grands souvenirs parce que le chant commun, là, justement, quand on est tous ensemble et même à répéter avec des petites stepettes, etc., je sais pas, il y a un effet, c'est euphorisant. Le temps s'arrête et... Mais ça fait, oui, absolument. Moi, chanter, ça a toujours été quelque chose que j'admire chez les autres et que j'aime exercer, effectivement.
Et le fait d'être en groupe, ça a un poids de plus
Ben, le fait d'être en groupe, oui, il y avait les, ben, le fait de se fondre, le fait d'entendre les voix.
C'est d'entendre, les autres, d'entendre les
oui,
autres.
D'être à l'unisson, on parle d'unisson.
Oui, oui.
Bon, anecdote, mais je devrais me taire, mais non. On était dans un sous-sol d'église, parce que c'est lié aussi à une crise, un des plus grands fous rires de ma vie, où le chef ne comprenait pas. Suzanne Champagne avait des chaleurs, décide de se mettre tout nu sous sa toge. Et on faisait des mouvements comme ça. Alors, quand elle est de côté, je vois bien qu'elle est nue sous sa toge, mais on est au milieu de ce groupe, etc. Puis il faut pas que je rie. Alors, quand il faut pas rire, c'est monté. J'étais défaite, en me disant calme-toi. Donc, je pleurais de rire, puis je faisais du lip-sync. Bon, bref. À cause de ma copine qui avait des chaleurs. Bon, bref, c'est surréaliste. Alors, c'est un tout. Hein. Le gospel, ça, c'est lié à des moments de forte intensité.
Oui. L'importance de rire, tu sais, c'est quand même ça aussi.
Oui.
Puis dans le livre, j'ai fait un exercice de prescription, là, c'est-à-dire où je donne certains défis, parce que je pense que au niveau de la santé physique, on a compris, en fait, bon, faut faire de l'activité, faut bien s'alimenter, on sait comment prendre soin de notre corps, mais comment prendre soin de notre esprit, parce qu'on dit souvent un esprit sain dans un corps sain, et parmi donc j'ai trouvé certains défis. Bon, les gens qui décident de se remettre en forme souvent vont dire, ben, je vais courir un 5 km. Alors je me disais, c'est quoi l'équivalent en culture? Donc quand je parle de rire, le fait d'aller rire en groupe, ça a un impact sur le fait que tu vas rire davantage parce que ton ami est à côté de toi, et le fait, c'est un peu comme l'idée de la chorale, plus on est nombreux, plus les bienfaits sont là. Et moi, je serais peut-être curieuse de savoir, vous, c'est quoi vos saines habitudes de vie culturelle? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce qu'il y a des choses que, concrètement, quand vous écoutez la musique, quand vous lisez, je sais pas, au quotidien, qu'est-ce qui vous fait du bien à travers la culture?
Ben c'est d'en voir, d'en lire, ça fait partie de ma vie quotidiennement, donc oui, c'est important de me nourrir comme ça chaque jour, mais j'y pense pas vraiment.
C'est comme un automatisme, en fait.
Oui. Oui, ben, tu sais, j'y vais pas si je suis pas inspirée par quelque chose, un livre, un article, une musique, mais j'écoute de la musique tous les jours, j'adore aller au théâtre, je lis beaucoup. Oui, ça fait partie de ma vie, ça me nourrit beaucoup, ça nourrit mon imaginaire et tout, en fait. Mes relations aussi, pour moi, l'art aussi, c'est une question de relations, peut-être qu'on en parle peut-être pas assez, mais moi, pour moi, la lecture, c'est avant tout associé à mon père. À chaque semaine, il m'offrait, quand j'étais plus petite, des classiques français. Mon père est français. Et donc, pour moi, la littérature sera toujours associée à lui.
La transmission.
La transmission. Puis l'amour de mon père, en fait. Donc, pour moi, il y a beaucoup de ça aussi. Puis après, quand je suis en spectacle, cette relation qui se crée aussi avec les gens qui viennent nous parler, je pense que ça, c'est la plus belle chose, en fait. Donc moi, ça, c'est super de sentir vibrer par une musique et d'avoir une relation si profonde avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, ouais, mais qu'on a l'impression de connaître de façon très, très viscérale ou très profonde. Et
quand ça arrive,
c'est la plus belle chose.
Le mot juste là, dans une chanson, là, tu fais « Ah, ouais, c'est exactement ça que je ressens. » Tu sais, puis quelqu'un a trouvé la façon de nommer, puis ça fait du bien, ça nous décharge de savoir que quelqu'un a mis le mot sur ce qu'on ressent. Robert, je ne sais pas, dans les saines habitudes.
Il y a un élément, absolument comme Émilie aussi, mais peut-être c'est masculin, je crois que ça l'est, masculin. Moi, je carbure un peu au défi. Il faut que je me mesure à quelque chose d'un peu au-dessus de moi. Donc, je fais exprès, souvent même avant d'écrire, de lire quelqu'un que je vais commencer par imiter sur au moins deux pages parce que je ne pourrais jamais faire plus. Ça me lance totalement. Donc, j'ai tendance à m'ennuyer quand on me raconte ce que je sais déjà, trop,
ouais,
et à me questionner énormément quand j'entre dans un domaine. Le dernier film d'Almodovar, par exemple, que j'ai vu, je fais aïe, là, je ne sais même pas comment l'interpréter réellement, ce film-là, mais je sais ce que ça m'a fait et pourquoi probablement lui l'a fait. Et tout ça m'amène toujours à me dire, si tu n'es pas dans une forme de dépassement quand tu fais quelque chose,
ouais,
la peur probablement assez masculine de l'étalement, du renoncement à aller plus loin, de l'autosatisfaction qui mène à l'amertume, etc. J'ai trop vécu dans ma vie avec des gens plus vieux que moi, que je regardais aller, je me disais, mais si c'est ça le but de mon travail d'artiste, de finir dans l'amertume et dire que c'est jamais, il n'y en aura jamais assez, c'est jamais assez pour moi, ça me terrifiait. Ouais. Je me disais, est-ce que je suis capable de me mesurer à Flaubert sans être frustré de ne pas avoir écrit Madame Bovary? Je me disais, il y a moyen. Et très souvent, je travaille avec des jeunes écrivains qui disent, je ne veux pas lire parce que je ne veux pas être influencé. Alors, on ne peut pas écrire si on ne lit pas. T'sais, ça devient impossible. Donc, l'amour du défi me pousse, moi, très souvent.
Mais en fait, c'est ça, pour atteindre l'état de flow là, que probablement que vous atteignez quand vous écrivez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop facile, puis il ne faut pas que ce soit trop dur non plus pour que ce soit juste décourageant. Donc, c'est juste le niveau de difficulté qui te motive à aller t'asseoir.
Le milieu de ça, c'est soi-même, simplement. On arrive à soi-même.
Oui, complètement.
Vite.
Et Sophie?
Oui. Moi, je me considère pas écrivaine comme Robert Lalonde, franchement. Moi, je suis d'abord comme, et avant tout comédienne. J'ai un regard sur les choses et j'adore écrire des livres pour enfants. Je dis parfois que j'ai l'orage mental, mais pour me ressourcer, pour moi, la culture, c'est tout. Ça peut être une amie qui va me livrer une très bonne recette de muffins et m'apprendre à faire des muffins. Donc, la nourriture aussi est quelque chose de culturel. Ouais. Mais mon rapport à la nature, c'est là que je vais me ressourcer. Pendant la pandémie, je m'appelle la fille qui marche, mais vraiment, je faisais 15 km par jour. Je vais en Gaspésie, je monte le Mont Albert, la Jacques Cartier. Et là, j'atteins des... C'est comme si là, le ménage dans ma tête se faisait, m'inspire. Robert, j'ai lu plus d'une fois des textes de toi, justement, qui parlent de la rivière, de tout ça. Bon, donc, ça va me toucher profondément. Donc, c'est ma façon à moi de cultiver l'émerveillement. Puis, j'ai la chance d'avoir une maman qui vit toujours, qui a 92 ans, et qui, à 92 ans, est toujours aussi curieuse de tout. Ouais, Sophie, as-tu lu ça? As-tu vu un tel qui est passé à la télé? Mais il est insupportable, ou alors il est merveilleux. Donc, et on était tout petits, elle disait, regardez les champs de houblon, c'est magnifique. On l'a tellement taquiné avec ces maudits champs de houblon, mais c'est vrai que c'est beau. Ouais. Et donc, j'ai un peu cette énergie-là que j'essaie de léguer à ma fille. Et je crois que le secret, c'est de s'intéresser aux autres. Mm. Quand tu prends le temps, donc je dis en 20 minutes, de poser des questions un peu, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton parcours et tout? Tout d'un coup, tu découvres quelque chose et puis, ça te donne une piste. Bon, c'est pas pour être partout à la fois, tu fais un tri aussi, mais... Ouais. Enfin, pour me résumer, je crois que... Après le salon du livre, aujourd'hui, je vais aller marcher. Faut que je déblaye ma voiture, faut que je pèle un petit peu, mais comprends-tu? Faut que je prenne de l'air. Ouais. J'ai besoin pour... C'est peut-être qu'il y a trop d'énergie dans ce body-là. Faut que j'exulte. Ouais. Et c'est beaucoup, beaucoup que... Faire la vaisselle aussi me donne beaucoup, beaucoup d'idées. C'est comme si tout se plaçait. Toi, tu vas au théâtre. Moi, non. Moi, je peux prendre des breaks de théâtre, justement, et même de lecture un temps. Je dois avoir quelque chose d'autochtone.
Le besoin de la contemplation.
Sais, prendre des arbres. Ouais. J'ai été, pour la première fois de ma vie cet été, à la pêche au saumon. À 5 heures du matin, dans la rivière, j'ai éclaté en larmes. Ouais. C'était tout ce que j'aime. Mais ça, je viens pas d'une famille dont c'est la culture. D'où ça vient, ça? Dans un lac de truite en Gaspésie à brailler ma vie. Alors, j'ai rien pogné, puis j'étais heureuse.
Mais il faut...
La seule fois où j'en ai taquiné un saumon, j'ai fait votant, vis ta vie, puis le moment ma guide était découragée. Je fais, mais non, qu'il y aille.
Il lance une question, entre autres, dans La vie m'amuse, également de l'amour de la Gaspésie. Merci infiniment à vous trois d'avoir pris le temps de cette discussion. Merci à vous d'avoir été présents, puis je vous invite à aller découvrir les œuvres de nos auteurs. Donc, Émilie, Robert, Sophie, merci.
Merci.
T'es une vraie pêcheuse si tu pognes rien. T'es une vraie pêcheuse si tu pognes rien.